Radio Prague, les informations.
Près de 400 personnes ont été arrêtées dans la journée de samedi après la forte mobilisation contre un groupuscule néo-nazi. Le phénomène du réchauffement climatique a été à nouveau relativisé par le président Václav Klaus. Et puis en sport, c'est Barbora Špotáková, la lanceuse de javelot, qui a été désignée athlète tchèque de l'année. Selon les informations fournies par la police tchèque, 396 personnes ont été arrêtées samedi, dont 96 ressortissants étrangers, pendant une journée mouvementée dans la capitale, marquée par une forte mobilisation contre un groupuscule néo-nazi qui voulait défiler dans le quartier juif. Plusieurs militants d'extrême droite ont été blessés par des activistes antifascistes en surnombre. Trois des individus arrêtés sont accusés de violence sur agents de la force publique. Le ministère de l'Intérieur a félicité les forces de l'ordre pour avoir réussi à maintenir un calme relatif. Le président tchèque Václav Klaus, dans un entretien à paraître lundi dans la presse allemande, estime que le réchauffement climatique est un fait peu étayé, exploité par les hommes politiques, les journalistes et les scientifiques à leur avantage. Le débat injuste et irrationnel à propos du réchauffement me dérange vraiment. Cette question prend de plus en plus la forme du conflit idéologique majeur de notre époque. Le mouvement de protection du climat représente une nouvelle idéologie. C'est ce que déclare Václav Klaus dans un entretien accordé au magazine économique allemand Wirtschaftswoche. Des chutes de neige ont provoqué des perturbations sur plusieurs axes routiers du pays dimanche. Le trafic est difficile sur l'autoroute D1 dans la région de Vysočina où 5 accidents se sont produits dans la matinée. Le trafic ferroviaire est également perturbé dans la région en raison de chutes d'arbres sur la voie. En sport, la championne du monde en titre du lancer du javelot Barbora Špotáková a été désignée meilleure athlète tchèque de l'année à l'issue d'une enquête dont les résultats ont été proclamés samedi soir à Prague. À 26 ans, Barbora Špotáková a détrôné le décathlonien Roman Šeberle, qui termine cette année à la deuxième place du classement. La troisième place est revenue à la perchiste Kateřina Badurova, vice-championne du monde de sa discipline. Et puis en foot, c'est un joueur tchèque qui a inscrit le but victorieux lors de la dernière journée du championnat de Russie pour assurer le titre au Zénith Saint-Pétersbourg. Radek Shirel, c'est son nom, a marqué dimanche le seul but de la rencontre face au Saturn Moscou. Une victoire qui permet au Zénith de terminer avec 2 longueurs d'avance sur le Spartak Moscou. Le Zénith n'avait pas remporté le championnat depuis 23 ans, à l'époque où il s'appelait encore le Zénith Leningrad. Et puis c'est ce dimanche 11 novembre, jour de la fête de Martin. C'est le jour de l'arrivée du nouveau vin en République tchèque, le vin de la Saint-Martin, l'équivalent du Beaujolais en France. Et la vente des 620 000 bouteilles de ce nouveau vin a commencé à 11h précise dimanche. Enfin, on termine avec la météo, du froid, de la pluie et de la neige encore au menu de cette météo de lundi, jour de fête des Bénédictins en République tchèque. Les températures ne dépasseront pas 3 degrés en journée. C'était le bulletin d'information présenté par Alexis Rosenzweig et dans un instant, c'est la suite du programme en français de Radio Prague.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, en plein cœur historique de Prague, à 2 pas de la place de la vieille ville et du quartier juif de Josefov, se niche une petite galerie dont le nom annonce tout de suite la couleur et la forme. Comme son nom l'indique, la galerie La Femme, en français dans le texte, s'intéresse essentiellement à ce sujet éminemment classique. Classique n'est toutefois pas synonyme de banal, ainsi que le clame le mot d'ordre de la galerie. Pour les artistes, la femme reste une source infinie d'inspiration. Et c'est pourquoi la majeure partie des œuvres exposées et en vente a pour thème la femme. Cela n'empêche cependant pas le galeriste inspiré Miroslav Lepena d'organiser d'autres événements, comme l'exposition en place jusqu'au 16 novembre intitulée « Le sud de la France vu par les artistes tchèques », résultat d'un séjour de plusieurs peintres à Canet dans les départements de l'Hérault en juin dernier. Un séjour de découverte et même de redécouverte pour ces artistes, car en effet, c'est la deuxième année consécutive que cette expédition créatrice est organisée. Le jour du vernissage de l'exposition, j'ai rencontré Monika Lipinova, la fille de Miroslav Lipina, qui l'aide à la galerie. Elle m'en a dit un peu plus.
C'était pendant 15 jours. Il y avait cet artiste, cet peintre, un musicien qui est parti avec nous, Dragan Hoxha, qui est d'origine albanaise. Il joue dans un groupe Haha Blues.
C'est les mêmes artistes cette année que l'année dernière?
Il y avait 4 artistes les mêmes, 3 nouveaux. Alors on a un peu changé. Chaque fois, on veut que il y a plusieurs styles différents. Par exemple, le réalisme, l'art abstrait, un peu humoristique, figuratif, etc. Alors, on veut que le choix soit plus riche, plus vaste.
Est-ce que vous pouvez me présenter un peu les artistes, par exemple, un tableau qui vous plaît particulièrement, qui serait pour vous révélateur un peu de l'ambiance de ce séjour?
Ce qui était intéressant cette année pour moi, c'était la présence d'une femme peintre, Eva Chebikova, qui a le regard un peu spécial pour la réalité de ce qui se passe autour d'elle. Elle est une bonne observatrice, elle observe toujours des situations. Après, elle fait avec un humour très spécial, très personnel, des tableaux. Alors, elle commence par exemple à faire des oreilles, comme ce tableau là. Alors, elle a commencé le tableau par 3-4 oreilles, et après elle a ajouté des têtes. Tout à coup, il y avait un tableau qui s'appelait L'écoute nocturne du Rossignol.
Alors, c'est celui qu'on est en train de regarder là.
Voilà, c'était la situation dans le jardin, la situation presque quotidienne, parce qu'il y avait un rossignol qui chantait dans le jardin. Mais alors, c'était nous qui étions autour d'une table, on a écouté avec les oreilles très grandes le chant du rossignol.
Daniel Reibich était un des peintres présents à Cannes la première année ainsi que cette année en juin. Ce dernier séjour a représenté pour lui un changement majeur.
Le deuxième séjour, j'ai appris que la nature française est très riche, très intéressante. J'ai changé complètement de couleur. Et depuis ce séjour, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, donc je suis très satisfait.
Vous pouvez montrer ce que vous avez fait?
C'est la journée à la mer, à Cap d'Agde. C'est une imagination d'une maison sur la mer. Et voilà, c'est un cours dans lequel on a travaillé aussi.
Donc vous estimez que en fait, ce séjour en France a complètement transformé votre création, ou alors en tout cas depuis?
Oui, exactement.
Et maintenant, donc, vous travaillez sur quoi, par exemple? Vous travaillez encore sur les souvenirs de la France, ou vous êtes passé à autre chose?
Je continue à travailler sur le paysage, mais aussi j'ai changé les couleurs et les formes de mes figuratifs.
Parmi les personnes passées voir les tableaux, la comédienne française Chantal Poulain, installée depuis plusieurs années en République tchèque.
C'est ma petite galerie préférée, je viens très très souvent ici. Il se passe dans cette galerie, la galerie La Femme, des rencontres très très sympas. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'une galerie, c'est pas seulement un lieu où les gens silencieusement observent des œuvres d'art, mais c'est un lieu de rencontre, de communication où les gens... Et c'est là, je trouve que Mirek le fait très très bien.
Vous avez vu un peu les peintures, c'est des peintures qui ont été inspirées par la France, alors je suppose que vous êtes venu et du coup ça vous touche particulièrement aussi?
D'abord, il faut avouer qu'ici, il y a beaucoup d'amour pour la France et que bien sûr que ça me touche tout ce qui est, parce que moi j'habite ici depuis tellement d'années, j'ai besoin d'avoir le sentiment des fois d'être un petit peu en France ou bien que la France inspire.
Dans le sud de la France, la petite troupe de peintres a été accueillie par un couple d'artistes français, comme le raconte Monica Lepenova.
Des artistes, des amis à nous, des Français qui tiennent... un endroit très sympa qui s'appelle Centre Nyama. C'est un petit centre culturel où il organise des projets artistiques comme avec danse et peinture, théâtre, etc. C'est Madame Izusha et Patrick Thomas. Alors, ils nous ont aidés avec Sandro, ce qu'on a trouvé l'année dernière. Alors, c'était pour la première fois. Cette année, on est revenu à cet endroit-là pour peindre, et pour faire de nouvelles expériences.
Matériellement, comment ça s'est organisé? Où étiez-vous logé? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé, disons, pour loger tout ce monde-là? Enfin, comment eux se sont débrouillés pour loger finalement tout ce monde-là et les accueillir?
On était logé directement au centre parce que c'est un centre assez grand. Nizusha et Patrick, ils ont amélioré pendant l'année dernière cette place encore. Que c'était encore plus confort pour nous. Alors il y avait le dortoir où on a dormi tous. C'était très sympa, c'était un endroit très particulier, plein d'émotions, plein d'énergie positive, artistique aussi. Alors je pense que les artistes étaient contents, ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont beaucoup de souvenirs avec lesquels ils ont travaillé.
C'était Monika Lepenova et pour parler un peu plus de ce centre culturel méditerranéen, je cède la parole à Patrick Thomas, artiste et chanteur de Soneta, son fondateur, avec Nizusha, danseuse et chorégraphe. On écoute tout de suite Patrick Thomas.
C'est un centre que nous avons créé petit à petit dans le but de la rencontre justement entre les artistes que nous souhaitons maintenant arriver à porter à réalisation puisque le lieu est prêt et qu'il ne nous reste plus que pouvoir faire les échanges comme nous le souhaitons.
Comment est-ce que vous êtes rencontrés en fait avec les gens de la Galerie La Femme?
Il y a 15 ans, il y avait des organismes montpelliérains comme Peuple et Culture qui organisaient des rencontres entre 15 Tchèques, 15 Allemands, 15 Français. Et donc nous en faisions partie en tant que musicienne, danseuse, moi plus chorégraphe et danseuse. Et ensuite, c'est de là qu'est partie une très forte amitié avec les Tchèques. Et dans ce groupe-là, il y avait un peintre qui lui fait partie des peintres qui exposent à la Galerie La Femme. Il y a 2 ans, Monika, enfin la galeriste, avait vendu un de ses tableaux. Et puis là, c'est là, elle lui a dit que ça faisait depuis plusieurs mois qu'elle cherchait à trouver un lieu en France pour recevoir un séminaire des artistes tchèques. Et lui, il lui dit, mais tu sais, j'ai des amis en France qui ont eu lieu. Ils nous ont appelés tout de suite, à la minute même. On a dit, mais il n'y a pas de problème, vous venez tous chez nous. Ils sont en séminaire chez nous, on leur montre la mer, on montre des coins un peu sauvages autour de chez nous, la montagne, des coins un peu fabuleux. Ils peignent la nuit, le jour, on fait beaucoup la fête. Et à la fin du séjour, il y a un vernissage où eux, donc il y a toutes les peintures qu'ils ont faites sur place. Et puis, bon, Patrick chante, moi je danse.
Comme il y a eu quand même 2 séjours, donc 2 années, vous avez vu deux fois des groupes de peintres tchèques qui sont venus. Quelle différence vous avez ressentie, par exemple, par rapport à la première année
Je pense que la rencontre est restée la même dans la beauté. Au niveau dont chacun est un peintre, on retrouvait les mêmes atmosphères, la même recherche de travail. On avait l'impression qu'on a mené un groupe de touristes en fait sur des lieux qui se posaient, qui regardaient, qui se baignaient, qui étaient là comme en vacances. Et ce qui était étonnant, c'était qu'en rentrant le soir, on retrouvait donc dans les peintures comme une photo imprimée ce qu'ils avaient vu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était étonnant de voir le travail nocturne qu'ils faisaient par rapport à ce qu'ils avaient vu dans la journée.
Puis surtout aussi par rapport à la même, au même paysage, de voir la différence des techniques. Chacun avait vu peut-être des tailles différentes aussi. Et c'est là où on voit les artistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu tout à fait la même chose du même paysage d'un vécu, d'une situation. Il y a certaines situations que certains avaient vues, d'autres pas. Et pour nous, c'est vraiment fabuleux de les voir, ces peintures qui commencent. On se demande ce qui va se passer sur cette toile blanche.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, par exemple, dans les réactions, alors à la fois de ce qu'ils vous disaient quand ils découvraient les paysages, les gens, l'atmosphère, parce que si finalement le sud de la France, c'est quand même très particulier déjà en France, enfin, je veux dire, c'est vraiment une atmosphère différente du nord de la France, mais alors par rapport à la République tchèque, c'est encore plus contrasté. Est-ce qu'il y a des remarques dont vous vous souvenez ou des réflexions qui vous ont particulièrement marqué?
Oui, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. On s'est aperçu qu'ils aimaient beaucoup le vin. et qu'ils étaient très attirés finalement par cette couleur rouge. Voilà.
Et la pétanque aussi. J'aime bien aller dans notre village faire à chaque fois les concours de pétanque.
La pétanque.
J'ai cru remarquer la présence assez récurrente d'un animal dans les créations et c'est un élan. Alors est-ce que vous pourriez m'expliquer d'où sort cet élan parce que c'est pas un animal très traditionnel du sud de la France ou de la France.
Je ne suis pas à la source du phénomène élan. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire quelque chose là-dessus.
Ça a été vraiment et c'est parti de délire. Ça a été inventé et après placé pour faire une blague donc au papa de Monica, Mirek, et ils lui ont fait croire que au lac où on va tous les temps, ils ont vu un élan et que depuis qu'ils ont vu cet élan, ils peuvent peindre que cet élan. Et alors du coup après,
la femme était bien remise en question.
Voilà, il n'y avait plus le thème de la femme. Mais, alors quand Mirek est arrivé, ils avaient caché tous les tableaux, les vrais tableaux qu'ils avaient faits pendant une semaine, etc. Ils les avaient cachés et ils avaient placé chacun qu'un tableau qu'ils avaient fait en vitesse avec un élan. Mais comme il est très calme, il a rien dit trop sur le coup. Et puis après, et comme il était très fatigué, c'était le soir, il a dit, il est allé se reposer. C'est le lendemain matin, en fait, qu'il a dit, maintenant, il faudrait se mettre au travail.
Et dernière question, vous allez continuer alors avec ces jours d'artistes, en dehors des tchèques, disons, et peut-être avec des tchèques aussi.
Oui, mais déjà, bon, nous, on voyage, mais ça fait 15 ans qu'on vit à Prague, pour la danse africaine, puisque c'est Patrick et moi qui avons fait découvrir la danse africaine et les percussions à Prague. Ça n'existait pas du tout, ni même en Bohême du Sud, en Tchéquie, il n'y avait pas du tout de musique africaine ni de danse africaine. Donc c'est moi qui en première ai donné des stages de danse africaine ici.
Et moi je voudrais dire qu'on a travaillé avec des Allemands, on a travaillé avec pas mal de personnes, ça n'a accroché qu'avec les Tchèques. On ne peut pas expliquer ça. En tout cas, c'est avec les gens, le peuple tchèque, qu'il s'est passé quelque chose d'harmonieux et de durable. Avec les Allemands, ça a duré un petit peu, puis ça s'est éteint avec d'autres aussi, d'autres pays. Et on adore venir ici, on aime bien l'énergie et le climat d'une capitale telle que Prague. C'est vraiment, au niveau de la capitale, un endroit où on aime être. C'est très paradoxal pour nous aussi. Et donc, je tiens à dire qu'il se passe quelque chose quand même de particulier entre nous et la Tchéquie.
Voilà, c'est la fin de Culture sans frontières. Retrouvez cette rubrique sur notre site internet www.radio.cz. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Direction aujourd'hui, la Moravie du Sud. Produits faits à la main, boissons et plats du terroir, tourisme, écologie, culture et style de vie se sont présentés au cours du week-end écoulé dans la ville de Uherské Hradiště sous le nom de Salon du patrimoine morave. Quel est le patrimoine à découvrir par les touristes dans cette région de Moravie nommée Slovatsko? Nous en parlerons tout de suite avec les auteurs de cette nouvelle initiative. Будем саженіт еще, кем маж я не дівча не се шугая. Не будем саженіт еще, кем маж я не дівча не се шугая. Свобода леву самі паті на свете. Штири ай пять помилуват, але верне не милуват другая. Свобода леву сами пати на свете, чтири айпет помиловат, але верне не миловат чугая. Musique de cymbalum, pâtisserie confectionnée dans la pure tradition des recettes des grands-mères, spécialités culinaires, promenade en bateau sur le canal Batia ou à vélo sur des sentiers vinicoles, exposition des photos et des tableaux de la région, démonstration de métiers traditionnels, fabrication à la main des produits en osier, en céramique maïolique, costumes populaires, dégustation de vin et de slivovice, la fameuse eau de vie à à base de prunes. Tout cela et beaucoup plus était à découvrir au premier salon du département morave à Uherské Hradiště. Pour l'un des auteurs de cette initiative, Ivo Ondračka, ce salon, c'est la recherche d'un style de vie, de ce qui est proche des habitants de cette région et la découverte de leur façon de gagner leur vie. On l'écoute.
Nous avons voulu créer une association qui ferait goûter aux visiteurs l'ambiance du patrimoine morave, c'est-à-dire créer un espace dans lequel les visiteurs pourraient non seulement regarder les produits du terroir, voir comment ils sont créés, mais dans lesquels ils pourraient eux-mêmes essayer de travailler les matériaux traditionnels, l'argile, la pâte, l'osier. Nous avons voulu aussi leur proposer les dégustations de ces produits et leur faire découvrir la région de Slovatsko. De prime abord, c'est une région plate, sans grand intérêt lorsqu'on la traverse en voiture, mais il faut s'arrêter et aller voir les richesses qu'elle cache, par exemple près de la rivière Morava, où on peut découvrir un ancien pont-levis qui ressemble au pont de Langlois des tableaux de Van Gogh. Dans ce salon du patrimoine morave, il y a aussi des œuvres d'art, le regard des artistes sur cette région, bref. Tout le savoir-faire morave est à découvrir dans un même endroit, au même moment et en plus dans le beau décor de ce salon.
Le Salon du patrimoine morave a été fondé en 2005 en tant qu'association regroupant producteurs, fermiers, artistes, ceux qui proposent des services touristiques et qui, par leur vie et parce qu'ils font, sont attachés à la région, veulent préserver, mettre en valeur son patrimoine. Le Salon morave, c'est l'expérience individuelle et collective que nous voulons partager et développer, dit Martine Joufanek, qui, avec ses parents et ses frères, a fondé une distillerie familiale spécialisée dans la production de liqueurs et de la fameuse slivovice selon les procédés traditionnels du terroir.
Cette présentation est importante pour nous car c'est un moyen de promouvoir nos produits qui sont à 100% naturels. Le traditionnel alcool de prune qui est fabriqué de manière industrielle et commercialisé dans les magasins a une réputation quelque peu compromise et nous avons voulu proposer une alternative qui sera distribuée dans les vinothèques. Un alcool naturel produit dans une distillerie familiale avec tous les soins et l'amour pour qu'il soit une garantie de qualité et pour que notre marque Joufanek soit synonyme du patrimoine de cette région.
Les touristes qui viennent dans la région de Slovatsko peuvent choisir eux-mêmes entre les différents circuits qui les intéressent le plus et qui les conduiront sur les lieux du patrimoine morave. Ils peuvent, par exemple, prendre un bateau culinaire à bord duquel des spécialités moraves sont servies, ou bien ils peuvent choisir un circuit sur le canal Batia qui les conduira dans les villes qui longent la rivière Morava. Strajnice, théâtre tous les ans du plus grand festival folklorique, Luhačovice, ville thermale réputée par les séjours du compositeur Leoš Janáček, ou encore Velehrad, célèbre lieu de pèlerinage avec dans ses environs le magnifique château de Buchlov. On peut faire des promenades à vélo et profiter d'un réseau de sentiers cyclables qui mènent à travers les Carpates blanches ou encore des nombreux sentiers vinicoles. La ville de Uherské Hradiště vaut également un détour. Tous les ans, Uherské Hradiště est le théâtre de l'école estivale du cinéma et cette année, au mois de septembre, la ville a eu l'honneur d'inaugurer les journées du patrimoine européen. En effet, la ville possède de nombreux monuments historiques et culturels. Sa fondation remonte à 1257, lorsque le roi de la dynastie des Pchemislides, Ottakar II, l'a fondée comme forteresse frontalière contre les invasions hongroises, d'où probablement aussi son nom, Uherské Hradiště, lieu fortifié hongrois. De cette époque, le plan du noyau historique avec des vestiges des remparts gothiques s'est préservé. L'église du couvent des Franciscains et du vieil hôtel de ville, avec une tour prismatique élancée, date de la charnière des 15e et 16e siècles. L'inspiration par la Compagnie de Jésus est indéniable dans l'architecture de l'église paroissiale jésuite Saint-François-Xavier. De nombreuses sépultures avec les fondations du complexe de l'architecture sacrale du IXe siècle, découverte par les archéologues, témoigne l'existence d'un centre important de l'empire de la Grande Moravie à la confluence des rivières Oshava et Morava. En conclusion de notre balade, Ivo Ondračka a voulu inviter tous les intéressés à participer aux activités du Salon du patrimoine morave qui a lieu pour la première fois les 10 et 11 novembre dans la ville de Uherské Hradiště pour qu'une nouvelle tradition puisse voir le jour. Веру не будем на тей стороні бівати. Странянське дівчата бігну красу мати, і не мені повісти, чим заумівати. Ми зауміваме. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague. En attendant, vous pouvez nous lire et nous écouter sur notre site internet www.radio.cz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.